Mage, écoute.
La vision est pleine.
C'est de tout entendre.
H1000 vous propose de regarder la nature et la montagne avec vos oreilles. Durant 30 minutes, votre radio va déambuler par les chemins.
Auditrice, soyez donc les bienvenus pour cette carte postale sonore, un tout petit peu inédite, puisque nous nous situons dans le très beau village de Roquefix. Sur le patrimoine, l'histoire, et quoi d'autre?
Et la vie?
Et la vie. On s'est rencontrés à Foix, et je t'ai demandé quel endroit aimerais-tu m'emmener. Et tu as tout de suite percuté sur Roquefixade. Pourquoi?
Parce que c'est beau, c'est un joli village. Parce que s'y mêlent la nature et le patrimoine, et effectivement la vie. Certes, c'est pas un village qui est très peuplé aujourd'hui, il y a plus de poules et de coqs que d'habitants peut-être.
On les entend, oui.
On les entend. Mais c'est un village où il y a un patrimoine historique très ancien, 13e siècle, et il y a aussi un patrimoine vernaculaire, c'est-à-dire traditionnel d'ici, des cabanes en pierre sèche. Qui parle là, exactement, on ne sait pas quelle époque, mais ces cabanes devaient être occupées aussi au 19e siècle.
D'accord. Et là, tu veux m'amener aux cabanes d'abord ou à un autre endroit?
Je vais t'amener dans une cabane, c'est la cabane de Dieu.
Vas-y, on y va. La cabane de Dieu. Alors, nous passons une petite...
forgé sur donation par un forgeron. Il a fait quelque chose d'assez merveilleux parce que ça permet aux visiteurs de rentrer sans déranger vraiment le matériel et d'avoir au moins l'accès visuel à cette ville, à cette église. Les églises sont malheureusement toujours fermées. Et grâce à ce système, on peut avoir une église qui ventile, une église qui respire aussi. Donc la cabane de Dieu, effectivement, c'est...
Tu aimes t'y retrouver ici?
Oui, c'est un très bel endroit. C'est un très très bel endroit. Et ce que j'aime dans les églises aussi, c'est leur acoustique.
On a une association ici au village qui a beaucoup travaillé pour lever des fonds, pour restaurer l'église de Roquefixade avec les différentes sculptures, grandes sculptures. Saint-Martin qui a été sculpté dans un tronc d'arbre, complètement dans un tronc. D'autres sculptures qui ont été restaurées avec des feuilles d'or.
La petite bergère ici, ça sent déjà. J'ai fait des visites,
visites chantées. Ah. Si tu veux, je peux te chanter quelque chose.
Ah oui, tout à fait. Alors je vais mettre.
Allez, plutôt là-bas.
Alors nous sommes, comme vous l'avez compris, en live, quoi. Il n'y a pas de coupure depuis le début de l'enregistrement. C'est ainsi.
Et la lumière, clarté.
dans ce très beau village de Roquefixing. Voilà, nous traversions une petite ruelle avec des maisons en pierre sèche. Et justement, tu me parlais du son tout à l'heure dans l'église. Es-tu sensible au son? Et quels sont les sons qui aiguisent ton oreille ou qui t'émeuvent?
Il y a deux sons peut-être. Il y a beaucoup le son des voix. Il y a peut-être plus de sons que ça quand j'y réfléchis. Il y a beaucoup le son des voix qui me portent, qui sont parfois une mélodie, une vraie mélodie. Donc ça c'est le son humain aussi. Hein. Je suis très sensible au son et vite parasitée également. Une ouïe très aiguisée et sur le qui-vive. Donc c'est parfois très pénible d'être réveillée.
Ouais. Et est-ce que c'est de vivre en milieu rural, montagnard, on va dire, qui t'a aiguisé l'ouïe?
Peut-être qu'on est plus, quand on est dans un milieu montagnard, dans un silence qui fait qu'on entend. On entend le reste. On entend le vent.
Ouais.
On entend les feuilles qui se froissent dans le vent. Et après, ce sont des moments de retraite, des moments de silence que j'ai pu faire personnellement qui font que... Quand tout se calme, on entend mieux. Et c'est aussi quand rien n'est calme qu'on entend tout. Quand on est un peu sur le qui-vive, peut-être un peu stressé aussi, dans ces instants de silence. Un animal sauvage. C'est curieux.
D'accord.
Un autre son que j'aime énormément, c'est le son des voix chantées dans une église. J'ai eu à plusieurs reprises l'occasion et la joie d'entendre des sœurs chanter, des communautés de sœurs ou des communautés de frères chanter avec le son qui monte dans la nef ou dans le cœur, et ça transporte.
Alors là, on va où maintenant?
On va aller par là. On va aller par là. On va aller... là, on est sur un vieux chemin qui... Un chemin qui a deux histoires. C'est le chemin de fuite des bons hommes. Des bons hommes et des bonnes femmes qui étaient ces cathares qui ont fui la persécution. À partir de 1233, ils ont commencé à fuir parce qu'ils étaient brûlés, ils étaient persécutés, notamment par l'Inquisition, organisée en 1233. Donc on est sur un chemin qui est un chemin de fuite. Parce que les cathares, les bons hommes, ils étaient ici, sur notre territoire, en mariage. Ils ont traversé les Pyrénées pour rejoindre Berga, le territoire catalan. Ils ont trouvé un refuge temporaire, parce qu'ils ont dû aller plus loin. Je vais d'abord t'amener là,
d'accord,
sur un point de vue. Puis un point de vue sur Montségur.
Ouais.
On parle des bons hommes, on parle de Montségur, bien sûr. Parce que c'est l'un des plus grands bûchers du XIIIe siècle à Montségur. 200 personnes qui ont été brûlées sur le bûcher de Montségur pour leur foi, leur conviction.
Ouais, ça n'a pas trop changé aujourd'hui, je dirais.
Je dirais que les choses ont énormément changé et en même temps, elles n'ont pas changé sur certaines choses. Elles ont énormément changé parce qu'aujourd'hui en France,
oui,
on ne va plus vous brûler sur une bûche. Je crois qu'il faut vraiment en prendre conscience quand on revoit... Revisite un petit peu le passé au niveau de nos territoires ici. Les choses ont fondamentalement changé. Mais à côté de ça, c'est l'esprit de tolérance qui manque encore aujourd'hui. Dans certaines personnes, c'est cette tolérance qu'on a perdue, quoi. Enfin, qu'on a perdue. Que certaines n'ont jamais rencontré, peut-être aussi. On parle des. On parle de tolérance, on parle de foi, on parle de tolérance. C'est un village qui craque.
Un village qui craque. Écoutez-le. Écoutez-le, auditeur. Allez, on ouvre la stéréo. Très silencieux.
Effectivement. Ah. Il ne craque plus. Ainsi va le son. Au hasard de vos oreilles. On reprendra le micro un peu plus tard. Nous, on continue notre marche autour de ce village de Roquefixade et de ce point de vue admirable sur le château de Montségur, mais aussi sur l'écharpe de brume qui encombre les montagnes. Un truc stratégique en fait à l'époque, c'est la frontière entre le...
Alors, on est sur une ligne qui va être une frontière entre au nord du royaume de France et au sud du royaume d'Aragon. Mais il faut mettre quand même quelques petites précisions, parce qu'ici au sud on n'a pas le royaume d'Aragon. Il faut aller un petit peu plus à l'est, il faut aller vers les châteaux de Peyrupertus, puis Laurent, Kéribus. Ici, au sud, on a encore le territoire des comtes de Foix. Avec Roquefixade, on est sur le bastion le plus à l'ouest des territoires royaux, à la fin du XIIIe siècle. Et Roquefixade, c'est un village, bastide, construit à la demande du roi de France, en 1278. Et quand il s'implante ici, il met un pied sur les territoires qui étaient quasiment inaccessibles, des territoires du comte de Foix, du comte de Toulouse. Et c'est une stratégie militaire pour être encore plus proche des ports, des cols, on appelle ça des ports ici,
ouais.
Des cols de commerce et de transition vers le royaume d'Aragon qui est de l'autre côté, qui est très puissant. Quand on regarde Montségur et Roquefixade, ce sont deux lieux où on peut parler du catharisme, on peut en parler partout en fait. Mais Montségur, c'est le château pirate. Et Roquefixade, c'est un lieu qui a hébergé les cathares, ils ont protégé. Même avec la présence du roi de France, il devait y avoir des gens qui se cachaient ici.
Quand tu marches comme ça, en montagne, tu penses qu'il y a peut-être 4 ou 5 siècles, des cathares ont foulé ce même lieu que toi.
Je n'ai peut-être pas mes pas dans les leurs, mais ils sont passés par là. Pour chercher les jours meilleurs, parce que c'était pas bien droit. Hein. C'était la guerre, quoi. C'était la persécution pendant 5 ans.
Et pourquoi ont-ils été persécutés? C'est parce qu'ils étaient dans une forme dissidente de la religion catholique?
De la religion chrétienne, oui.
Chrétienne, ouais.
Oui. C'est une forme dissidente de la religion chrétienne. Ils ne sont pas catholiques, ils sont chrétiens.
Et c'est quoi les grands concepts alors de cette dissidence?
Les grands concepts, simplement, c'est considérer que ce qui est tout autour de nous, c'est l'œuvre du diable. Voilà. Pour les cathares, tout ce qui est matériel est l'œuvre du diable. sont bien des chrétiens parce qu'ils utilisent les écrits. Les écrits du Nouveau Testament, notamment l'évangile, les évangiles et l'Apocalypse de Saint Jean.
Alors, par exemple, cette pierre, ils considèrent que cette pierre, c'est l'œuvre du diable ?
Oui, tout ce qui est là, autour de nous, tout ce qui est matériel, le corps même, tunique de chair, manteau de peau, y est conservée l'âme, mais cette âme, elle doit s'échapper. Elle doit s'échapper naturellement. Le suicide, c'est pas autorisé. Elle doit s'échapper naturellement. Donc au début de la vie des bons hommes, ils reçoivent un baptême, qu'on appelle le consolament, et à la fin de la vie des bons hommes, ils reçoivent l'extrême-onction, qui s'appelle aussi consolament. Et une fois libérée, l'âme va pouvoir revenir éternellement auprès du Père dans le ciel. Ça, c'est une lecture de l'Apocalypse de Saint Jean, une interprétation. Et c'est pour ça qu'ils ont été persécutés. Parce que l'Église catholique a une toute autre interprétation de l'Ancien et du Nouveau Testament. Et de la terre et de l'œuvre de Dieu. Donc cette montée en puissance de cette foi fait que l'Église catholique ne pouvait pas laisser des hommes puissants, c'est-à-dire des seigneurs ici du Languedoc, protéger des gens qui allaient à l'encontre de la parole de l'Église. Et ils y sont allés d'abord par la prêche avec les dominicains, et ensuite ils y sont allés par la force, en demandant à qui veut, surtout à ceux plus intéressés pour gagner des terres, les barons français, de se réunir et de faire une grosse armée pour
ouais.
Mais alors, des terres dissidentes.
Ce que je ne comprends pas, c'est où c'est dans l'imaginaire collectif, on dit que les cathares étaient plutôt très respectueux de la terre et de la nature. Et là, tu me dis le contraire, qu'en fait, la nature était considérée comme le diable, ou alors j'ai mal compris.
Je crois que ça, ce sont des images aussi qu'on se fait, et une espèce de mythologie autour du catharisme. Si on va brut simplement dans les choses, un chrétien, un catholique, et on le voit avec ce que dit le pape aujourd'hui, on a une écologie. On a une écologie de la spiritualité, de la foi. Donc tout ce qui nous entoure est respecté parce que c'est l'œuvre de Dieu. Effectivement, ça vaut pour les catholiques. Et pour les cathares, tout est à respecter, surtout son prochain. Surtout son prochain ou son frère. Ils suivent les préceptes du Christ, ils suivent l'enseignement du Christ. Le Christ dit, tu ne pécheras pas, tu ne convoiteras pas la femme de ton voisin, et tout ça. Et le fidèle cathare, lui, il va suivre tout ça. C'est pour ça que quand il y a eu des grands combats, c'est pas lui qui tenait l'épée, c'est le chevalier qui était à ses côtés. Ils font des enfants, parce que si jamais l'âme qui a eu le temps peut-être d'être bonne durant toute cette vie, de recevoir le consolament, de finir avec ce consolament, n'est pas à la hauteur, il va bien falloir qu'elle revienne. Ils ont cette notion aussi de réincorporation. Une âme va revenir.
Réincarnation.
Ouais, c'est un terme beaucoup plus compliqué qui est utilisé, mais bon, c'est la même chose, on va dire. Une réincorporation possible, donc il faut faire des enfants. Parce que s'il n'y a plus d'humains pour sauver les âmes, parce que le passage sur Terre, il est obligatoire.
Thank you.
ici, c'est plus le domaine commun de l'émission H1000. Mélanie. Et donc, je voulais te poser cette question. Est-ce que tu penses qu'on devrait conférer au même titre que pour les monuments historiques, qu'on devrait donc conférer à la nature le titre de patrimoine historique, le titre de patrimoine culturel, c'est-à-dire qualifier la nature comme un monument, tel qu'un musée, comme le Louvre, ou tel qu'un château, comme celui de Roquefixade, ou de Monseigneur.
Spontanément, ce qui me vient, c'est que on a déjà borné tout ça avec nos parcs, avec nos réserves. Et j'ai l'impression que quand on délimite un territoire qui va devenir un parc naturel, une réserve, on sanctifie un petit peu ce qu'il y a à l'intérieur, on le consacre, on le sacralise, c'est-à-dire qu'on le met à un certain niveau, on le préserve. Donc il y a des arbres aussi qui sont déjà inscrits comme monument, pas comme monument, mais je ne sais plus exactement le titre. Il y a des arbres qu'on ne peut pas toucher. On ne peut pas les toucher parce qu'ils font partie de notre héritage.
Ne devrait-on pas alors attribuer des droits civiques à la nature comme pour une personne physique?
Un droit civique à la nature comme pour une personne physique.
Ouais, c'est-à-dire que la nature aurait des droits et des devoirs.
Le devoir de nous abriter, de nous donner l'oxygène. Et nous, on a le devoir de la respecter. Et lorsqu'on la viole, on passe au tribunal, en quelque sorte.
C'est le terme de est-ce qu'elle n'aurait pas des droits et des devoirs? C'est pas une personne physique, la nature. C'est un être. C'est pas un être. C'est un espace et c'est à nous simplement à respecter ce qu'il y a autour de nous. Et pour moi, c'est intrinsèque. Alors effectivement, dans la société dans laquelle on vit, il faut tout légiférer, il faut dire ceci, il faut qu'on s'appuie sur des lois. Et c'est franchement chiant. Continuons, malheureusement, il faut quand même continuer à éduquer une population à son devoir de respecter et les gens qui l'entourent. Et respecter ce qui l'entoure de héritage. On n'est pas comme ça, on ne sort pas du ventre de notre mère, on est en connaissance de tout. Donc c'est à nous, humains, à sensibiliser nos enfants, ça c'est certain. Et un émerveillement sur un paysage, ça s'apprend. Ça s'apprend. Moi, j'amène ma fille et je lui dis, ben regarde. Et je m'extasie moi-même. Je lui dis, mais que c'est beau. Et maman, elle, des fois, elle le fait. Elle se pose devant moi, elle dit, mais que c'est beau. Tout autour du château de Roquefixade, où on a dénombré 130 cabanes. 130 cabanes comme celle-ci, c'est-à-dire de la pierre sèche, même pas équarrie, même pas taillée. Une pierre qui vient du chemin, qui vient d'un peu partout ici. Une pierre de calcaire, des blocs plus ou moins gros, qui ont été savamment agencés.
On y rentre, hein.
On y rentre,
on peut y rentrer debout.
On se trouver debout à l'intérieur.
Donc ça a été fait par l'homme
Ça a été fait par l'homme, alors ces datations, on ne peut rien savoir aujourd'hui dessus. C'est une façon de bâtir très soignée. Ce sont des assises de pierre sur la forme circulaire. Et ces assises de pierre, elles se rétrécissent jusqu'à monter en voûte. Et en gros, on a une voûte qui se ferme.
Ouais.
La porte d'entrée, ce sont les assises de pierre qui montent. Et pour clôturer, pour fermer, c'est un linteau de pierre. Et on a découvert que sur les 130, il y avait des types d'architecture extrêmement différents. Et ces types d'architecture montrent le savoir, mais aussi l'adaptabilité en fonction du terrain, en fonction des besoins aussi. Sur l'interprétation de à quoi ça sert, ici on est sur une cabane qui est orientée face au rocher que l'on vient de passer. C'est un rocher qui dominait, sur lequel on a trouvé un bâti du XIIe siècle et qui permettait d'observer toute la vallée, qui était un relais au château de Roquefixade, château qui date du XIIe. Donc ces cabanes peuvent être des postes de garde, peuvent être des bornes frontières pour délimiter des territoires. Des territoires à pacage, de pacage. Ici, il n'y a pas de bêtes qui viennent brouter. On est sur le Lapias.
Ouais.
On va les retrouver ailleurs.
Ouais.
Donc, c'est vraiment des fonctions, je pense, plus administratives et juridiques qu'un simple abri de berger.
Toujours du vent. Et toujours autour de Roquefixade, sous la falaise. Petit pâturage avec des brebis. Une petite série de questions-réponses. Quel est ton sommet préféré?
Le Cagir.
As-tu une saison préférée?
Le printemps.
Pourquoi as-tu choisi de vivre en milieu montagnard?
Parce que je m'y sens bien. J'ai été élevée aussi dans un milieu montagnard, c'est chez moi.
Écouter, ne rien faire. Est-ce du temps perdu ou est-ce du temps gagné?
Gagné. C'est gagné.
As-tu une anecdote particulière à raconter très succinctement qui t'est arrivé dans la forêt, en montagne, ou parmi ton travail de conférencière?
Je dirais vraiment que c'est très ancien. C'est des gamins. J'avais cru entendre l'ours dans cette barricade dans la cabane. C'était pas l'ours, c'était un cheval. On va dire que même quand on est élevé à la montagne, on fait cruellement de connaissances.
Si des gens sont intéressés pour faire le tour du sentier des villes telles que Mirepoix, parce que tu fais des visites guidées sur Mirepoix, Foix, plusieurs villages allégeants, comment on te contacte?
Il y a un site internet qui est visite au pluriel -occitanie.fr.
D'accord. Ok, merci et puis à bientôt. Comme diraient les marins. Bon vent. Bon vent.
Ressentir, entendre, la semaine prochaine. Je viendrai donc vous rechercher pour une nouvelle édition du programme H1000 sur votre radio.